c'est la qualité et ce qui fait différer. N'est-elle pas première dans l'ordre de la manifestation? Nous le verrons, ça. Comment est-elle première dans l'ordre de la manifestation? D'une certaine manière. Dans l'ordre de l'intelligibilité pour nous. N'est-elle donc pas, d'une certaine manière, liée par soi au devenir? Non, c'est plutôt l'inverse, lié par soi à l'ordre de l'être. C'est l'accident le plus proche de la substance. C'est l'accident le plus qualitatif. Donc le plus être. La qualité est liée au devenir et la qualité fait passer le devenir à l'être. C'est ça qui est très curieux. On va le voir, du reste, avec la position hegelienne. Serait-elle comme une mesure? Quel est son lien à la matière? Oui, toutes ces questions, c'est très bien, je ne les pose pas maintenant, puisqu'au fond, c'est déjà la réflexion sur la philosophie. Qu'est-ce que c'est que la qualité? Je fais une petite topique avant, hein, comme de coutume. Alors, si vous voulez, un tout petit mot sur la position hegelienne de la qualité. C'est particulièrement important et intéressant. C'est intéressant de voir que, de fait, toute philosophie... Nous avions parlé la dernière fois de saint Thomas. Alors, n'oubliez pas que le mot « nobilitas » chez saint Thomas, c'est la qualité. C'est intéressant comme référence. Saint Thomas aime d'employer le mot « nobilitas ». C'est très Moyen-Âge. Et c'est très qualitatif. C'est intéressant à voir. C'est ce qui donne de la noblesse. Qu'est-ce qui donne de la noblesse? La qualité. Qu'est-ce qui fait tomber dans le genre? C'est pas la qualité. Ce sera la quantité. Oui. Enfin, la qualité donne toujours à la réalité son caractère. Avoir du caractère, vous voyez, de la qualité. C'est pas l'originalité pour l'originalité, c'est beaucoup plus. C'est du caractère, c'est-à-dire ce qui va permettre à l'être d'être parfaitement lui-même. Et là, c'est ce passage très curieux de la qualité vers la finalité. Et perpétuellement, quand vous regardez dans saint Thomas, la qualité, elle est perdue, hélas. Je ne crois pas qu'on l'a ici. Une thèse du Père Médieu sur la qualité dans saint Thomas. Le Père Thomas avait fait la quantité. C'était tous les deux pris la qualité et la quantité chez saint Thomas. Ça n'a pas été édité et je crois que c'est perdu. On va la retrouver peut-être dans la bibliothèque de Saint-Jacques à Paris. Il avait repris tout problème de la qualité chez saint Thomas. C'est un très gros problème. Parce que tout le temps, saint Thomas a la qualité. Alors c'est intéressant de saisir saint Thomas par la qualité. C'est sûrement intéressant. Et de voir que l'originalité de la théologie de saint Thomas, je crois, un aspect de l'originalité, c'est pas la seule, c'est l'habitus. C'est ce qui caractérise. caractérise tout le problème de l'éducation chez Saint Thomas. Pour Saint Thomas, éduquer quelqu'un, c'est le qualifier. Il n'y a pas d'éducation sans qualifier quelqu'un. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un ouvrier qualifié. Un homme qualifié, c'est un homme éduqué. Un homme non éduqué n'est pas qualifié. Un homme non éduqué n'a pas d'habitus. Il n'a que des dispositions. Ça va comme je te pousse. Il est à merci de tous les courants, de toutes les... tous les différents aspects, les modes. Et il ne maintient pas une orientation de crête. Maintenir une orientation de crête dans tous les domaines, c'est un homme d'habitus, c'est un homme qui est qualifié. Qualité de l'esprit. Et éduquer quelqu'un, c'est savoir les domaines où il va acquérir des habitus. Il y a des domaines où il n'acquiert pas d'habitus. Vous comprenez bien que ce n'est pas éduquer quelqu'un de l'orienter dans les domaines où il n'y a pas d'habitus. Il sera toujours toute sa vie à la remorque. Au début, on ne le verra pas, parce que habitus et disposition, c'est très proche au début. Mais l'habitus acquiert son autonomie, la disposition jamais. Alors quand vous éduquez quelqu'un dans l'ordre de la disposition sans qu'il acquiert d'habitus, il sera toujours à la remorque d'un autre. Vous voyez, quand on dit de quelqu'un, c'est un excellent second, ça se dit, jamais premier. Un excellent second, il ne sera jamais chef de file, incapable, à la remorque. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des dispositions mais qui n'a pas d'habitus. Je traduis hein, philosophiquement parlant. Tandis que celui qui peut être premier, il a des habitus. C'est le porte-drapeau, si vous voulez. Parce que l'habitus, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à bien étudier, puisque l'habitus, c'est à l'intérieur d'une capacité d'agir, ce qui viendra déterminer cette capacité d'agir en vue de la finalité. Donc c'est comme le reflet de la finalité dans l'immanence de la nature. La finalité nous fait sortir de nous, mais il y a comme un reflet de la finalité au-dedans de nous-mêmes, ce sera l'habitus. C'est un pli qui nous oriente vers la fin. Et qui permet à la fin d'être présente dans nos diverses occupations. C'est pour ça que l'habitus permet d'agir avec facilité, avec joie, et toujours d'une manière qualitative. C'est-à-dire toujours d'une manière qui soit bonne. C'est ça la vertu. La vertu est un habitus. Et il y a dans l'intelligence des habitus. Une intelligence sans habitus, c'est une intelligence qui peut-être sait beaucoup de choses, mais qui ne comprend rien. Il y a des gens qui savent des quantités de choses. Un dictionnaire ambulant, un fichier ambulant, c'est mieux, un fichier matière. Vous appuyez sur le bouton, ça fait un ordinateur. Vous avez tout de suite la réponse. Et vous ne savez rien, parce que vous aucun jugement dessus, aucune qualité, il n'y a pas d'habitus, il n'y a que des dispositions. Ça se voit tout de suite, ça, vous voyez, c'est très curieux. Alors, il y a des domaines de la connaissance qui n'apportent jamais d'habitus. Il y a des domaines qui apportent des habitus. Les mathématiques donnent un habitus. Ça ennoblit l'intelligence. L'histoire ne donne pas d'habitus. Un historien sait beaucoup de choses, mais il ne sait pas juger. Comme historien, il pourra le faire autrement, s'il est artiste. Vous voyez, un historien artiste arrive à faire, comme on dit, à faire revivre l'histoire. pas en tant qu'historien, c'est en tant qu'artiste. Parce que l'art est un habitus. Ah, ça, c'est très très important au point de vue éducatif de savoir les domaines où il y a des habitus. Parce que vous ne faites pas perdre de temps aux gens. Tandis que si vous l'orientez dans les domaines où il n'y a pas d'habitus, vous le maintenez toujours second. C'est pas très éducatif. Il sera toujours en tutelle. Tandis que l'habitus se fait sortir de la tutelle pour qu'il soit premier. Vous voyez, prenez des exemples dans l'armée, hein, vous verriez tout de suite. Il y a des adjudants perpétuels. C'est très bien dans l'ordre de l'exécution. Dans l'ordre de la qualité, c'est pas toujours très, très réussi. Vous voyez, dès qu'il y a des gens qui ont tout de suite une qualité, c'est dans tous les domaines. Alors ça, c'est très intéressant. De voir que la disposition se prend toujours du côté de la matière, alors que l'habitus se prend du côté de l'objet et de la fin. Et donc, finalise quelqu'un et ennoblit quelqu'un. On est ennobli par nos habitus. Ça, c'est la grande trouvaille de Thomas d'Aquin. À la suite d'Aristote, il a mis en pleine lumière l'habitus. Faites cette chose très curieuse, qui est facile à faire. Relevez dans un Thomas tous les domaines où il y a un habitus. Vous verrez tout de suite, je dirais, les possibilités d'éducation pour ennoblir quelqu'un. Vous éduquez quelqu'un quand vous l'ennoblissez. Je ne peux pas aller plus loin. Parce que on resterait toute la fin de l'année scolaire sur la qualité chez Saint Thomas. Ça vaudrait la peine du reste. C'est une manière d'aborder Saint Thomas d'une manière assez particulière, qui ne se fait pas beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas assez Saint Thomas pour comprendre que l'habitus, c'est une des pièces dominantes de toute la morale de Saint Thomas et de tout l'esprit d'éducation dans Saint Thomas. Alors, ce qui est très curieux, c'est que à partir d'un certain moment, et je crois que c'est au cas, hein, on peut dire que il y a la réduction de la qualité à tel ou tel autre aspect. Autrement dit, la qualité perd sa noblesse. Un tout petit mot, réduction de la qualité à une catégorie, un concept pur de l'entendement. Et ça, c'est chez Kant. Mais la qualité va se ramener uniquement à la forme et va perdre son caractère de finalité. Je crois que c'est la première réduction très importante. Il y aurait à voir chez Occam, ce serait très intéressant aussi. Parce que Occam se veut proche d'Aristote, mais Occam perd le sens de la finalité d'Aristote. Et ramène tout à la logique. Vous voyez ? La logique nous fait perdre le sens de la qualité. C'est très curieux. La logique est bien un certain art, mais c'est du côté quantitatif. Du côté de l'universel. Et l'universel n'est pas très qualitatif. Onum ex multis. Ça a toujours une saveur du multiple, la logique. Toujours, à cause de l'universel. Vous voyez, c'est pas l'un qualitatif. C'est l'un dans son origine démocratique. Un onum ex multis, unum in multis, ad multa, c'est très très curieux. Je suis persuadé du reste que la logique ne peut donner qu'une politique démocratique, mais démocratique dans un sens où il n'y a plus de finalité. Il y a une démocratie qui est vraie, qui est qualitative, mais elle est très rare, à cause du poids de la quantité. Oui, alors c'est le poids de la quantité, le multiple. Et la logique fait toujours dévier du côté quantitatif. Toujours. Alors, alors que la métaphysique est essentiellement qualitative. Vous voyez, quand Aristote dit la qualité différence de la substance, tout de suite, c'est qualitatif. Alors ça, ce serait une manière, du reste, de regarder la philosophie. Assez facile à faire. Une manière de regarder la philosophie européenne en voyant le déclin de la qualité. Alors, c'est d'une manière très, vous voyez, très communicative de voir la philosophie par le point de vue du déclin de la qualité. Il y a un déclin de la qualité. Terrible. Et de voir un primat de la quantité qui se fait de plus en plus. Les statistiques. Il n'y a rien de plus dégradant que les statistiques. Puisque c'est la quantité qui l'emporte toujours. Et la qualité est noyée dans la quantité. C'est très dégradant. Vous voyez, c'est le primat du nombre. C'est plus du tout le primat de la qualité. Alors ça, c'est Occam. Je crois qu'Occam a fait que s'incline vers le domaine quantitatif. Alors, vous voyez, chez Kant, c'est l'aspect formel. Puis alors ici, c'est quand même très important, conception dialectique de la qualité. Qualité, quantité, mesure. La qualité et la la déterminité identique à l'être. Alors, c'est Hegel. La contribution de Hegel en ce qui concerne la qualité est très importante. Hegel reproche à Schelling de n'avoir pas su, dans sa philosophie de la nature, manier, c'est de lui, traduction qu'il faudrait vérifier, manier la qualité parce qu'il n'est pas parvenu à l'exprimer dialectiquement. Il n'a pas su manier, c'est intéressant. Les manipulations. Les manipulations, c'est manier la qualité. Alors, c'est très bien dit. La qualité, en tant que qualité, ne peut pas être maniée. Mais, la qualité, dans sa manière d'exister, toutes les qualités du monde physique ont un support quantitatif. Et par le support quantitatif peuvent être maniés. Et alors à ce moment-là, on confond la qualité et son support quantitatif. Et on ramène la qualité à la quantité. Ça c'est tout Hegel. Dialectiquement. Alors ça c'est intéressant parce que c'est quand même une des grosses influences modernes. Et qui se fait sentir immédiatement. Et si la substance, il faut d'abord la saisir pour voir qu'elle disparaît. Comme des quantités de personnes n'ont jamais saisi ce que c'est que la substance, ils ne voient pas la disparition de la substance. Quand on n'a jamais su ce que c'était que la substance. Quand vous n'avez jamais su ce que c'était que l'acte, ça disparaît. Vous ne l'avez jamais su. Vous ne l'avez jamais vu. Vous ne l'avez jamais saisi. Tandis qu'il y a très peu de personnes qui n'ont pas saisi la qualité. Très peu, je crois. Heureusement. Mais c'est une petite émergence. La première émergence de l'intelligence, c'est la qualité. Alors, il y a très peu de personnes qui n'ont jamais émergé au point de vue intelligence. Ils n'ont pas continué. Ils ont émergé. Il y a eu un petit espoir. Quelque chose qui a poussé. Puis après, c'est retombé. De sorte que c'est beaucoup plus facile de voir la disparition de la qualité que celle de la substance et de l'acte. C'est sûr. Alors, voyez bien ce que dit Hegel reproche à Schelling de n'avoir pas su, dans sa philosophie de la nature, manier la qualité parce qu'il n'est pas parvenu à l'exprimer dialectiquement ou conceptuellement. C'est intéressant. Dialectiquement ou conceptuellement, ce qui signifie la même chose pour Hegel. C'est Hippolyte qui dit ça, dans la genèse et la structure de la féminologie de l'esprit de Hegel. Cette philosophie de la nature, philosophie des puissances et non du concept, reste une philosophie de la différence indifférente ou de la grandeur. Plus sensible que Schelling aux oppositions qualitatives, Hegel reproche à ce dernier d'avoir traduit quantitativement le réel en cherchant à retrouver sous forme de puissance ou de degré une même intuition absolue dans tout le réel, ce qui implique que les oppositions qualitatives soient effacées, que le concept disparaisse au profit de cette différence indifférente qu'est la quantité, et que l'on en reste à une identité homogène qui ne parvient pas à se distinguer et à s'opposer en elle-même. C'est assez difficile comme texte, mais c'est très intéressant. Mais n'oubliez jamais que c'est toujours quand un philosophe critique un autre qui est un moment privilégié pour saisir ce qu'il est. Quand vous voulez saisir quelqu'un, c'est un signal d'alarme, si vous voulez. Un signal d'alarme, ça s'entend. J'ai entendu un signal d'alarme dans le train quand il va à toute vitesse. Alors, on sait ce que c'est. Je me souviendrai ça toute ma vie. Signal d'alarme, ça. Il y avait des grèves à Paris. Alors, il y avait quelques cheminots qui ne faisaient pas la grève et qui conduisaient des trains pirates. Bien heureux quand on a ce train-là. Je devais retourner en Suisse. La nuit. J'étais monté dans le train sans billets puisque tout était fermé. C'était merveilleux. On voyait, je pour rien. J'avais vu deux personnes monter simplement en les regardant. Je m'étais dit, il y a des chances qu'ils soient là pour jouer un mauvais tour. J'aurais dû suivre mon intuition. Je sais pas ce que j'aurais fait, mais quand le train était parti, à peu près, vraiment, commençant à prendre sa vitesse normale, j'ai vu quelqu'un, plus exactement, je l'ai pas vu, mais qui a tiré signal d'alarme. Vous voyez ce que ça fait, hein? Et puis, dès que le train a ralenti, ils ont ouvert la porte, ils sont partis. Alors vous voyez très bien ce que c'était. Le coup classique. Parce qu'il va y avoir deux trains, on va l'embêter, empoisonner, parce qu'il fait ça. Pour les bourgeois qui ont besoin de voyager. Alors, coup classique. C'est très significatif. Mais c'est très intéressant ça, comme ce que ça représente. Comme choc. Mais la diaphora. C'est nettement ça. Mais une rupture. On sent ce que c'est qu'une rupture. On est lancé. Continue, hein, le sens de la vitesse. C'est continue. Puis tout d'un coup, une différence. Une rupture. C'est pas quantitatif du tout, c'est très qualitatif ça. Ça peut être qualitatif d'un sens ou de l'autre. Hein. Mais c'est une rupture. Être sensible aux ruptures. Mais je crois que c'est ça, Hegel. Sensible aux ruptures. Et la qualité va impliquer en elle-même ça. Vous voyez, le reproche qu'il fait à Schelling. C'est très intéressant. De la doctrine de Hegel lui-même, nous ne mentionnerons ici que deux points. Pour Hegel, la qualité n'est pas une propriété. Elle ne relève pas de l'avoir, mais de l'être même de quelque chose. Donc, il semble à première vue magnifier la qualité, puisque la qualité n'est pas de l'ordre de l'avoir, elle est de l'ordre de l'être. Donc, ça semble très aristotélicien. La différence de la substance, c'est ramener à l'être. Ça, c'est intéressant. Il ne faut pas confondre la propriété avec la qualité. On dit certes aussi que quelque chose est face à des qualités. Cette expression, cependant, est inadéquate dans la mesure où l'avoir indique une subsistance par soi qui n'appartient pas encore au quelque chose immédiatement identique à sa qualité. Quelque chose n'est ce qu'il est que par sa qualité. La diaphora de la substance. Quelque chose n'est ce qu'il est que par sa qualité. Alors qu'au contraire, la chose, si elle n'existe pareillement que dans la mesure où elle a des propriétés, n'est pourtant pas liée à telle ou telle propriété déterminée, et peut donc aussi la perdre sans cesser, pour cette raison, d'être ce qu'elle est. Donc la qualité fait partie de la structure de l'être. Ça, c'est très intéressant. Jamais oublier que c'est le domaine de la qualité qui, pour nous, est le plus révélateur d'une philosophie, comme d'une personnalité. C'est très, très, pour nous, c'est très, très important. C'est intéressant parce qu'on voit tout de suite le niveau saisi de l'être. Mais si vous ramenez la qualité à l'être, et si vous savez un peu ce que c'est que la qualité, vous voyez très bien, oui, la manière dont on peut traduire la diaphora de la substance. C'est tout à fait ça. La qualité est un degré de l'être, une des premières formes de l'être, et donc l'une des plus abstraites. C'est dans l'encyclopédie, ça. L'avoir vient comme relation à la place de l'être. Quelque chose a, il est vrai, en lui-même aussi des qualités. Mais ce transport de l'avoir sur l'étant est incorrect, parce que la déterminité comme qualité est immédiatement un avec le quelque chose. Et le quelque chose cesse d'être s'il perd sa qualité. Être et qualité s'identifient. Donc la qualité est un degré de l'être, hein, c'est ce que je vous dis. Alors, je texte encore. Chaque sphère de l'idée logique se montre comme une totalité de détermination et comme une présentation de l'absolu. Ainsi en est-il de l'être, c'est de Hegel ça. Ainsi en est-il de l'être, c'est dans l'encyclopédie. Qui contient en lui les trois degrés de la qualité, de la quantité et de la mesure. Donc l'être contient en lui les trois degrés de la qualité, de la quantité et de la mesure. La qualité est avant tout la déterminité identique à l'être. De quelque sorte que quelque chose cesse d'être ce qu'il est, s'il perd sa qualité. La quantité, par contre, vous voyez, c'est intéressant, parce que qualité, quantité, mesure se tiennent. Vous voyez, vous avez la trilogie. Hein. La quantité, par contre, est la déterminité extérieure à l'être. Pour lui, indifférente. Ainsi, par exemple, une maison reste ce qu'elle est, qu'elle soit plus grande ou plus petite. Et un rouge reste un rouge, qu'il soit plus clair ou plus sombre. Le troisième degré de l'être, la mesure, est l'unité des deux premiers, la quantité qualitative. La quantité qualitative, c'est la mesure. Oui, identité. Vous identifiez les deux. C'est les degrés dans l'être, le plus et le moins. À partir de la mesure, se produit le passage à la deuxième sphère principale de l'idée, à l'essence. Les trois formes de l'être indiquées ici sont précisément parce qu'elles sont les premières, en même temps les plus pauvres, c'est-à-dire les plus abstraites. Qualité, quantité, mesure, c'est la pauvreté de l'être. Donc, c'est l'aspect le plus abstrait, par où, d'une certaine manière, le plus proche du concept. Rappelons, quelle est la genèse de ces trois formes de l'être ? L'être pur et le néant pur, abstraction aussi vide l'une que l'autre, et qui ne font qu'un, s'unissent dans le devenir, en lequel ils se suppriment réciproquement. C'est pas toujours commode à comprendre, hein. Alors, ayez quand même un petit peu une intelligence souple pour arriver à comprendre ce que c'est que le devenir. Le devenir chez Hegel. Par là, le devenir, c'est de lui, ça. Toujours l'encyclopédie. Par là, le devenir se montre comme ce qui est absolument sans repos et ne peut se conserver en cette abstraite absence de repos. Mais l'absence de repos, c'est le devenir. N'est-ce pas? Vous allez dire, c'est bien évident. Vous voyez que la négation sert à préciser l'aspect positif. La négation de devenir, c'est le repos. Donc vous allez définir le devenir par le repos. C'est très beau, ça. Qu'est-ce qui est plus connu, le repos là, ou le devenir ? Le devenir est une synthèse, de l'être est du non-être. Donc le non-être est toujours présent dans le devenir. Il n'y a pas de devenir s'il n'y a pas de non-être. Et si l'être est premièrement connu, le non-être premièrement connu, le devenir est connu comme quelque chose de plus concret. C'est évident. Si c'est de plus concret. Alors, c'est assez joli de définir comme ça. Par là, le devenir se montre comme ce qui est absolument sans repos, mais ne peut se conserver en cette abstraite, abstraite absence de repos. Puisque l'être et le néant disparaissent en lui, il est lui-même quelque chose qui disparaît. Cependant, le résultat de ce processus n'est pas le néant vide, mais l'être identique à la négation. C'est ce que Hegel appelle le Dasein, qui est un devenu. Qu'est-ce que ce Dasein? Le Dasein est l'être avec un, avec une déterminité, donc l'abstrait de la détermination, ce par quoi la détermination existe comme détermination, une déterminité qui est en tant que déterminité immédiate et dans l'élément de l'être, la qualité. Alors voilà ce qu'est la qualité. C'est une démarche dialectique de la qualité. Je reprends pour que vous voyez bien. Le Dasein est l'être avec une déterminité qui est en tant que déterminité immédiate ou dans l'élément de l'être, la qualité. Le Dasein, en tant qu'il est, dans cette déterminité qui est sienne, réfléchit en lui-même et étant là à quelque chose. Et la qualité en tant que déterminité qui est face à la négation contenue en elle, mais différence d'elle et réalité. Je crois que c'est ça qui est important à saisir. La qualité, c'est donc l'élément de l'être. Vous voyez, diaphora de la substance. Comme c'est intelligent. Pas oublier qu'Hegel est très proche d'Aristote. C'est la déviation de l'aristotélisme. Et vous le saisissez peut-être là. Différence de la substance. Qu'est-ce que c'est que la différence de la substance? C'est ce qui donne à l'être son caractère. L'être est une indétermination absolue. Quel est le premier moment de la déterminité? Ce par quoi quelque chose est déterminé. Ce par quoi quelque chose est déterminé, c'est la qualité. C'est donc l'élément. C'est ça la qualité. Donc, j'allais dire, c'est l'être dans sa légèreté d'être. C'est l'être dans son dynamisme d'être. Alors, est-ce que la qualité serait comme le dynamisme même de la dialectique? C'est la qualité. C'est intéressant. Hippolytique, c'est la relation et l'infini. Mais ces textes ont l'air de nous incliner vers le point de vue beaucoup plus de la qualité. Reprenant à son compte, le omnis determinatio est negatio de Spinoza. Ça, c'est un des aspects très importants de Hegel. Toute détermination est négation. Omnis determinatio est negatio de Spinoza. Hegel affirme que l'assise fondamentale de toute déterminité est la négation. L'assise fondamentale de toute déterminité est la négation. C'est encore dans l'encyclopédie. C'est la négation dans le Dasein, négation qui est encore immédiatement identique à l'être, qui est la limite. Quelque chose n'est ce qu'il est que dans sa limite et par sa limite. Quelque chose n'est ce qu'il est que dans sa limite et par sa limite. Hegel précise que c'est avant tout de la limite qualitative qu'il est question, plutôt que de la limite quantitative. La qualité est donc, chez Hegel, conçue essentiellement comme limite. Alors là, c'est le point de vue de Leibniz qui est très important. C'est que détermination et limite sont identiques. C'est Leibniz le premier qui a dit ça. Et ça, ça a une immense conséquence. Pourquoi toute une série de personnes, on voit aujourd'hui, ne peuvent pas supporter, au plan chrétien, qu'on détermine quelque chose? Que l'Église définisse. Ça les met en colère. Vous avez tous connu ça. C'est la tentation progressiste. On peut définir par là ce que c'est que le progressisme. C'est voici tout de suite. Le taureau se met en colère. C'est intéressant. Dès qu'il voit rouge. Dans la conversation, on glisse comme ça, tout de suite. C'est comme ça qu'on sonde les reins et les cœurs, hein, ou plus exactement, les cerveaux. C'est que pour eux, toute détermination est une limite. Donc si vous définissez quelque chose, vous limitez. J'ai fait l'expérience combien de fois dans ma vie. C'est pour ça que je vous l'affirme, parce que je suis persuadé que c'est ça. Et c'est intéressant à faire. Parce qu'il faut comprendre ce que c'est. Pas pour les mettre en colère, mais il faut comprendre ce que c'est pour savoir ce que ça représente. Ça, c'est le vieux reste de Leibniz. Un des aspects très intéressants. Vous voyez, on comprend très bien. Pour nous, c'est la causalité matérielle qui limite. Je dis dans une analyse aristotélicienne pour saisir le réel. C'est la causalité matérielle qui limite. La causalité formelle spécifie. Donc elle conduit vers la finalité. La causalité matérielle conduit vers le fondement. Elle limite. Si vous identifiez limite et détermination. Voyez ce que ça fait. Impossibilité de saisir la fin. C'est la conséquence de la suppression de la finalité. Et vous vous installez dans le fondement. Et vous êtes furieux devant toute détermination qui vous fait sortir de l'abîme. Vous aimez rester dans l'abîme. Vous aimez rester dans l'indétermination. Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, toutes les magouilles possibles. Les magouilles possibles, c'est l'abîme. Et la clé, c'est d'identifier détermination et limite. Alors vous supprimez les déterminations, toutes les limites. Vous êtes très grand pour supprimer les limites. Mais alors vous supprimez toutes les déterminations. Et vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Le tout, c'est de réussir. C'est de passer la douane. Et dès qu'on soulève un tout petit peu, peut-être que là, il y a un panier de crabes. Ou alors, fureur, vous arrêtez immédiatement tout. Il faut comprendre la stratégie. Et il y a une stratégie qui est terrible là-dessus. Alors vous voyez, c'est intéressant de voir que chez Hegel, vous retrouvez ça. Donc, Hegel affirme que l'assise fondamentale de toute déterminité et la négation. Donc l'assise fondamentale de ce par quoi la détermination est détermination est la négation. C'est la négation dans le Dasein, négation qui est encore immédiatement identique à l'être, qui est la limite. Quelque chose n'est ce qu'il est que dans sa limite et par sa limite. Hegel précise que c'est avant tout de la limite qualitative qu'il est question. Et non pas de limite quantitative. La qualité est donc, chez Hegel, conçue essentiellement comme limite. Dans le Dasein, ou dans le quelque chose, la déterminité est une avec l'être. Elle qui, posée en même temps comme négation, est limite et borne. C'est pourquoi l'être autre n'est pas de l'indifférent extérieur à lui, mais son propre moment, quelque chose est, du fait de sa qualité, premièrement fini, et deuxièmement variable, de telle sorte que la finité et la variabilité appartiennent à son être. Très curieux. Vous voyez, mouvement dialectique de la qualité. Redécouvrir dans la qualité la dualité, parce que il n'y a pas de dialectique sans dualité. La dialectique s'oppose radicalement au principe. Parce que ce qui dit principe dit terme. C'est au-delà de quoi je ne peux pas aller. Or, la dialectique n'est dialectique que si elle est infinie. Je peux toujours aller toujours plus loin. Donc, elle maintient la dualité. Maintenir la dualité dans la qualité, c'est maintenir ces deux aspects. Vous les trouvez. La finité et la variabilité appartiennent à son être. La finité et la variabilité. Donc la limite, la finité, ce par quoi la fin est fin. Et en même temps, la possibilité d'être autre chose. La variabilité. Ah, vous voyez comment qualité et quantité vont s'interférer. La variabilité, c'est essentiellement la quantité. Pour nous, c'est le divisible. Et la qualité est indivisible. Alors, on va regarder la détermination par le point de vue du fini. Par le point de vue du fini, on va retrouver la variabilité. Alors, on a finité, variabilité, qui donne le concept dialectique de la qualité. Alors, sans doute, ce deuxième point. Sans nous attarder ici au processus dialectique par lequel la qualité passe dans la quantité, l'une et l'autre donnant lieu à un troisième moment qui est la mesure. Vous avez compris, finité et variabilité. Vous comprenez le passage dialectique de la qualité à la quantité, et le passage de la qualité à la quantité donnera le point de vue de la mesure. Rappelons simplement cet autre grand aspect de la doctrine hegelienne, tel que Hegel le présente dans la préface de la Phénoménologie de l'esprit, le progrès par saut qualité. l'esprit ne se trouve jamais dans un état de repos. Puisque l'esprit est dialectique, donc il ne peut pas y avoir de repos. L'esprit ne se trouve jamais dans un état de repos.